lave pas tes purassés, je vous envoie tout mon passé. Viens que je vienne et qu'à toi colle cette ferveur que tu racoles. Ton électrique destinée se traîne à mes vis platinées. Je te parle comme on s'explique quand Mozart nous met en musique. Je t'ai prise sur le pavé comme une fleur de la marée. Et je te prends dans ma comète avec ton ventre que je jette. Au Labrador, on dormira avec des rennes dans les bras. Ton coquillage, je le perce.
...89.4, Radio Libertaire, et nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un livre important, Portrait du pauvre en habit de vaurien, de Michel Husson, aux éditions Sileps. Nous n'avons pas pu inviter l'auteur parce qu'il est malheureusement mort, voilà. Michel Husson était économiste et statisticien, il a consacré des années de recherche à ce livre. Alors, dans ce livre, il examine comment d'innombrables penseurs et scientifiques, en particulier britanniques, ont fait des pauvres urbains, générés par la révolution industrielle, une classe de sous-humains, quasi-criminels, une population de résidus, inexploitables par l'industrie naissante. Eugénisme, darwinisme social, malthusianisme, tout fut pensé pour rendre les misérables responsables de leurs conditions, pour condamner les dépenses sociales, censées soulager, là j'ouvre les guillemets, ceux qui ne sont rien, pour justifier l'exploitation de la masse par quelques-uns. Toutes ces théories sont reprises aujourd'hui dans des termes quasi identiques.
Dans la première partie de son ouvrage, Michel Husson nous explique ce qu'est à l'origine de ce travail. Et donc, à l'origine de ce travail, Michel Husson s'est posé une question. Comment une société peut-elle tolérer de mesurer l'écart
Comment une société peut-elle tolérer de mettre à l'écart une partie de la population qualifiée de surnuméraire?
Voilà, pardon. Il s'est intéressé en effet à la théorie de l'évolution de Darwin et à ses avatars, les différentes formes de ce qu'on appelle le darwinisme social. Que dit Darwin dans son ouvrage L'Origine des espèces, qui a été publié en 1859? Il dit que les organismes vivants sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques, grâce notamment au phénomène de sélection naturelle, ou l'idée que dans la nature, seuls les plus aptes survivent et se reproduisent davantage que les autres. Il parle donc Darwin parle des organismes vivants, mais il se garde bien de transposer ses théories à l'espèce humaine. Et c'est, évidemment, c'est extrêmement important, nous y reviendrons.
Alors, le darwinisme social, c'est donc l'application à la société humaine de la théorie de la sélection naturelle. Alors, quand apparaît cette doctrine du darwinisme social? Alors, selon Husson, elle apparaît au XIXe siècle, notamment dans les écrits du philosophe et sociologue anglais Herbert Spencer, qui est contemporain de Darwin. Spencer voit dans l'idée de sélection naturelle de Darwin la clé qui permet de comprendre le développement de la civilisation par opposition à la barbarie. Le mécanisme de la sélection naturelle décrit par Darwin serait totalement transposable au corps social. Pour les adeptes du darwinisme social, les inégalités, les guerres de conquête sont nécessaires parce qu'elles sont une mise en application de la théorie de la sélection naturelle à l'espèce humaine.
Donc le succès de cette théorie est immédiat. Quel est le discours qui est tenu sur les pauvres ? Michel Husson montre comment les discours contre les pauvres ont pour fonction de légitimer l'ordre économique et social existant, à savoir évidemment le capitalisme, l'exploitation, les inégalités de revenus et de fortune. Que disent les discours économiques dominants du 19e et 20e siècle sur les pauvres ? Si le pauvre est pauvre, si le chômeur est chômeur, c'est parce que ces gens ont intrinsèquement des vices et des défauts. Paresseux, opportunistes, roublards, tirs au flanc, inadaptés, etc., etc. Ils sont donc naturellement responsables de leur sort, responsables de leur malheur. L'organisation sociale et l'idéologie libérale sont ici dédouanées de toute responsabilité. Alors, d'où vient l'expression darwinisme social ? Eh bien, c'est un anarchiste qui a inventé cette expression. Il s'appelle Émile Gautier. Il est militant et théoricien anarchiste, donc. Selon Mike Hawkins, historien de la pensée sociale britannique, c'est donc lui qui s'est élevé contre le darwinisme social et qui donc le premier a employé cette expression comme intitulé d'une brochure qu'il a publiée en 1880 à Paris. Dans cette brochure, il conteste les tentatives d'application de la théorie de la sélection naturelle de Darwin aux sociétés humaines. Gautier pense que Émile Gautier pense que bien plus que la lutte et la victoire du plus apte, c'est l'assistance mutuelle et la solidarité sociale qui sont les moteurs du progrès de l'humanité. Il écrit « Le livre de Darwin va devenir la Bible des nouveaux exploiteurs. Ce sera par et au nom de la science que le sacrifice des faibles s'accomplira. »
Et alors, pour illustrer son propos, Gautier cite le pasteur et théoricien britannique Malthus, j'ouvre les guillemets, « un homme qui naît, si sa famille n'a pas les moyens de le nourrir, ou si la société n'a pas besoin de son travail, cet homme n'a pas le moindre droit à réclamer une portion quelconque de nourriture. Il est réellement de trop sur la terre. Au grand banquet de la nature, il n'y a point de couvert mis pour lui. La nature lui commande de s'en aller. Et elle ne tarde pas à mettre elle-même cet ordre à exécution. » C'est vraiment une citation particulièrement épouvantable. Et nous verrons que ce livre regorge de pensées d'intellectuels donc et de scientifiques absolument monstrueuses.
Le premier chapitre du livre donc de Michel Husson s'intitule « L'art d'ignorer les pauvres ». Nous allons faire un parallèle entre le darwinisme social et l'éthique chrétienne. L'existence des pauvres est une volonté de Dieu, selon l'éthique chrétienne. C'est Dieu qui a voulu qu'il existe des riches et des pauvres, et ces derniers seront récompensés dans l'au-delà. L'origine divine de la richesse et de la pauvreté va laisser la place à une, guillemets, laïcisation de la vision de la pauvreté et de la réponse à y apporter. Après l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, on va trier les, guillemets, faux pauvres et les, guillemets, vrais. afin d'éviter que l'État ne soit obligé de subvenir aux besoins des premiers, véritables paresseux, sinon voleurs et alcooliques.
Donc le darwinisme social est en totale contradiction avec l'éthique chrétienne, qui jusque-là faisait force de loi en Europe. Il considère légitime que les races humaines, entre guillemets, et les êtres les plus faibles doivent non pas être soutenus, aidés, mais doivent disparaître pour laisser la place aux races et aux êtres les mieux armés pour survivre. Autrement dit, aux races qui s'autoproclament supérieures. À noter évidemment que ces théories apparaissent au moment où se développe la colonisation. Donc la charité chrétienne est désormais considérée comme une entrave à la sélection naturelle. Alors, il y a d'ailleurs une citation d'un ecclésiastique et économiste, bon, un peu antérieur à Darwin, j'ouvre les guillemets, « Le royaume est actuellement inondé de faux pauvres qui vivent dans la licence et dans le crime, sous le masque de l'indigence réelle et de l'impuissance au travail. Ce n'est pas assez pour le gouvernement de pourvoir aux vrais besoins. Il faut encore qu'il pense à réprimer l'imposture, à la prévenir de son mieux, à la punir avec justice et intelligence. »
Ainsi donc, la distinction entre l'être vil et le noble devient un principe de régulation sociale, la raison cachée de la mise en place de l'ordre moral et juridique consiste à légitimer l'exploitation des pauvres, les ouvriers et les soldats. Le gouvernement n'a plus un devoir d'assistance morale aux pauvres. On va parler de l'Angleterre.
Oui, oui. Alors donc, en Angleterre, donc au moment où il y a une très forte, très fort exode rural pour gagner l'industrie, la population des pauvres explose. Et c'est à ce moment-là que Malthus théorise l'idée selon laquelle, j'ouvre les guillemets, le problème avec les pauvres, c'est qu'ils sont trop nombreux. Alors, on voit effectivement que tout le propos consiste à lutter, non pas contre la pauvreté, mais contre les pauvres.
Ou la surpopulation.
Ou la surpopulation, mais la surpopulation de pauvres.
Oui.
Entre 1750 et 1800, la population anglaise est passée de 7,5 millions à 12 millions. Selon Malthus, la population augmente plus vite que les ressources alimentaires à cause des pauvres qui font trop d'enfants. La surpopulation est donc de leur faute. Alors, il dit, j'ouvre les guillemets, « Le peuple doit s'envisager comme étant lui-même la cause principale de ses souffrances. »
Et en fait, ça va très très loin, puisque la faim elle-même est considérée comme un moteur qui incite les pauvres à travailler. Elle est donc, la faim est donc plébiscitée. D'autres intellectuels, à part Malthus, n'hésite pas à aller plus loin, donc, comme Joseph Townsend, qui se présente lui-même comme un homme qui souhaite le bien de l'humanité. À la page 36, je cite, « La faim exerce une pression paisible, silencieuse et incessante. Mais comme elle est le mobile le plus naturel du travail, elle engendre les efforts les plus puissants. » Il y a une deuxième citation qui est une citation de Malthus, à la page 36. « Quand la faim est ressentie et même redoutée, le désir d'obtenir du pain prédisposera tranquillement l'esprit à subir les plus grandes épreuves et adoucira les travaux les plus pénibles. Le paysan, une faucille à la main, est plus heureux que le prince sur son trône. Or, une allocation fixée et garantie, accordée aux pauvres, affaiblit cet élan. Elle favorise leur imprévoyance. Elle tend à détruire l'harmonie et la beauté, la symétrie et l'ordre du système que Dieu et la nature ont établi dans le monde. »
Voilà. On retrouve ici quasi intact l'argument moderne contre les prestations sociales qui désinciterait les chômeurs à rechercher activement un emploi. Alors on est vraiment en plein là-dedans,
tout à fait,
avec l'idéologie néolibérale qui consiste donc à diminuer constamment, on voit ça en France depuis l'ère Macron, même avant, à diminuer constamment le montant et la durée des prestations chômage. Voilà. Alors, donc, cette condamnation des aides publiques est véritablement théorisée au XIXe siècle. Alors, je vais vous citer, si je la retrouve, une phrase de John Stuart Mill, qui écrit la chose suivante: « Dans un pays trop peuplé ou en voie de le devenir, mettre au monde trop d'enfants, d'évaluer ainsi le prix du travail pour leur entrée en compétition, c'est faire grand tort à tous ceux qui vivent de leur travail. Ces lois qui, dans nombre de pays du continent, interdisent le mariage aux couples qu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont les moyens de nourrir une famille, n'outrepassent pas le pouvoir légitime de l'État. On ne peut leur reprocher d'être des violations de la liberté. » Voilà, donc c'est là on est véritablement au cœur du malthusianisme. Voilà, il y a aussi que à cette époque il y avait une terreur de la révolution française et des risques de révolution. Alors, il y a Malthus écrit: « De tous les monstres qui menacent la liberté, le plus redoutable est une foule aiguillonnée par les souffrances réelles qu'elle subit, généralement en raison d'un excédent de population, mais qui en ignore complètement la cause. Cette foule renforce la tyrannie ou la fait naître, là où elle n'existait pas. Peut-être n'aurons-nous pas à attendre longtemps pour trouver dans ce pays un exemple de cette tendance des foules à engendrer la tyrannie. » Voilà. Un peu plus loin, il dit « Si les mécontentements politiques se trouvaient mêlés aux cris de la faim et qu'une révolution soit déclenchée par une foule réclamant, hurlant d'être nourrie, cela conduirait à des bouleversements et à des massacres incessants, à une trajectoire sanglante que seule la mise en place d'un despotisme absolu pourrait interrompre. » Voilà.
Donc, il n'est pas nécessaire d'être généreux avec les pauvres. Et cette idée, pour faire écho à ce qui est dit à cette époque-là, et pour voir ce qui se passe aujourd'hui, donc cette idée est reprise par un essayiste ultralibéral contemporain qui s'appelle Nicolas Bavarez, qui affirme à propos donc de l'effet des 35 heures, je cite: Quant au temps libre, c'est le versant catastrophe sociale, car autant il est apprécié pour aller dans le Luberon, autant pour les couches les plus modestes, le temps libre, c'est l'alcoolisme, le développement de la violence, la délinquance, des faits malheureusement prouvés par les études.
Voilà. Alors, cette thèse rejoint celle d'un philosophe et écrivain néerlandais émigré en Angleterre, qui écrit au début du XVIIIe siècle, justifiant l'existence des pauvres. Dans une nation libre, il s'appelle Bernard Mandeville, hein, le monsieur, dans une nation libre où il n'est pas permis d'avoir des esclaves, les plus sûres richesses consistent à pouvoir disposer d'une multitude de pauvres laborieux. C'est une pépinière intarissable pour les flottes et les armées. Sans ces sortes de gens, on ne jouirait d'aucun plaisir et on n'estimerait point ce qu'un pays produit. Pour rendre la société heureuse et pour que les particuliers soient à leur aise, lors même qu'ils n'ont pas de grands biens, il faut qu'un grand nombre de ses membres soient ignorants, aussi bien que pauvres. Voilà. Alors, oui. le Michel Husson parle de Friedrich Hayek, qui était un économiste ultralibéral du XXe siècle, qui a inspiré Thatcher, Milton Friedman et compagnie, qui écrit « Mandeville a pour la première fois développé tous les paradigmes classiques du développement spontané de structures sociales ordonnées, du droit et de la morale, du langage, du marché, de l'argent et des connaissances technologiques. » Donc Hayek se réclamait ouvertement de ce philosophe. Voilà.
Donc on peut aborder évidemment aussi la question du salaire des pauvres, hein, et évidemment penser à ce qui se passe aujourd'hui. Donc si les pauvres sont aussi indispensables à l'aisance des riches, il ne faut surtout pas augmenter les salaires. Mieux vaut évidemment créer des emplois de domestiques. Donc voilà, par exemple en 2017, quelques heures avant son élection, Emmanuel Macron précisait son projet de supprimer l'indemnisation des chômeurs qui refusaient deux offres d'emploi dites, je cite, convenables. D'ailleurs, il y a une citation à ce propos
de Macron. Ouais, ouais, j'ai trouvé. Hein, voilà.
Vas-y.
Quand vous tombez au chômage, le premier mois, on fait un bilan de compétences. S'il y a des offres d'emploi qui existent face à vos compétences, on vous les propose. Donc, s'il y a des emplois à proximité, vous pouvez en refuser deux. Mais au troisième, je suis en droit de vous enlever l'indemnisation, puisque manifestement, vous ne voulez pas travailler. Là, j'assume totalement, comme d'habitude, il assume, voilà. Il faut faire un contrôle, ça tordra le cou à cette idée qu'il y a des gens qui profitent du système. Mmh. Voilà.
Donc, on pense aussi évidemment à la réforme de l'assurance chômage de 2021, qui vise à pressurer un peu plus ceux qui ne mettent pas assez d'empressement à, je cite, traverser la rue. La nouvelle réforme de Gabriel Attal vise à réduire les indemnités de chômage et à s'attaquer aussi aux plus de 55 ans en supprimant l'allocation de solidarité spécifique créée en 1984 qui garantissait des ressources minimales aux demandeurs d'emploi ayant épuisé leur droit à l'assurance chômage. Voilà, attaque contre tous les feignants qui ne veulent pas ou qui ne veulent plus travailler.
Voilà. Alors, ensuite, nous arrivons au chapitre 2, où Husson traite des lois sur les pauvres en Angleterre et des réactions qu'elles ont suscitées. Alors déjà, il faut savoir qu'en Angleterre, l'explosion des pauvres s'explique en grande partie par le mouvement de ce qu'on appelle les enclosures, qui ont privatisé les sols, qui ont privatisé des ressources qui jusqu'alors étaient utilisables. Les gens avaient le droit d'aller dans les champs, dans les forêts pour glaner, pour ramasser de la nourriture ou du bois, enfin des ressources indispensables. Et cette possibilité de commun a été totalement abolie avec la privatisation des sols, ce qui a engendré une explosion de la misère extrême.
En fait, ces lois qui étaient en faveur des pauvres ont été évidemment énormément critiquées, sévèrement critiquées par Malthus, Adam Smith et Ricardo, qui sont des économistes et philosophes britanniques ultralibéraux. David Ricardo demande son abolition. Il écrit, je cite, toute modification des lois sur les pauvres qui n'aurait pas pour but leur abolition ne mérite aucune attention. Et celui-là serait le meilleur ami des pauvres et de l'humanité qui pourra indiquer le moyen d'y parvenir de la manière la plus sûre et la moins violente. Voilà.
Voilà. Et il y a... donc, il y a... l'expression donc de truc paradoxal, comme quoi les aides aux pauvres enfonceraient les pauvres dans une pauvreté encore plus grande, détruiraient absolument le sens de l'effort des travailleurs, et donc toutes les lois antérieures au XIXe siècle, des lois qui visaient à doter les pauvres d'un minimum vital, étaient considérés comme des facteurs de pousser les pauvres dans une oisiveté, ignorance, voire malhonnêteté. Donc c'était une prime à l'indolence et au vice. Voilà. Donc,
il y a une citation, page 78.
Oui,
je la lis. Quand l'ouvrier honnête et industrieux voit à ses côtés un homme notoirement paresseux, que se passe-t-il dans son esprit ? Il réfléchit à la situation et découvre que son compagnon oisif reçoit autant que lui-même, à 2 spence par jour près, Et bien sûr, il relâche son effort. Et l'indifférence et la paresse succèdent à la vigueur et à l'effort. Les pauvres considèrent l'allocation comme un droit.
Voilà, ce qui est exactement le discours qu'on entend aujourd'hui, et discours qui a gagné d'ailleurs une bonne partie de la population quand on voit, quand on entend les récriminations contre l'assistanat, les branleurs, etc. Alors, on va faire une première pause musicale avec une chanson qui est fort à propos.
Les gens qui traînent la misère sont doux comme de vrais agneaux. Ils sont parqués sur cette terre et menés comme des troupeaux. Et tout ça souffre et tout ça danse pour se donner de l'espérance. Pour se donner de l'espérance. Pourtant les gens à pâle mine ont bon courage et bonne dent. Grand appétit, grande poitrine, mais rien à se mettre dedans. Et tout ça jeûne et tout ça danse pour se venger de l'abstinence. Pour se venger de l'abstinence. Pourtant ces pauvres traînent guêtres, sont nombreux comme des fourmis. Ils pourraient bien être les maîtres, et ce sont eux les plus soumis. Et tout ça trime et tout ça danse pour s'engourdir dans l'indolence. Pour s'engourdir dans l'indolence. Ils n'ont même pas une pierre, pas un centime à protéger. Ils n'ont pour eux que leur misère et leurs deux yeux pour en pleurer. Et tout ça court et tout ça danse pour un beau jour sauver la France. Pour un beau jour sauver la France. Grand matin à la nuit noire, ça travaille des 40 ans. À l'hôpital finit l'histoire, et c'est au tour de leurs enfants. Et tout ça chante et tout ça danse en attendant la providence. En attendant la providence. En avant d'eux et qu'on vous nomme chair à canon et sac à vin, va-nu-pied et bête de somme, traîne misère et meurt de faim.
en avant d'eux et que tout danse pour équilibrer la balance, pour équilibrer la balance.
Nous libertaires 89.4 et nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Alors on vous parle donc de ce livre de Michel Husson qui s'appelle Portrait du pauvre en habit de vaurien, publié chez Sileps et qui expose toutes les théories essentiellement britanniques du 19e siècle pour criminaliser les pauvres et les rendre responsables de leur sort et pour maintenir le système existant. Alors on en était à...
À Husson, qui multiplie les citations du 19e et du 20e siècle en dénonçant les aides aux pauvres, ce qu'on appelle aujourd'hui l'assistanat. Ces citations témoignent d'un véritable mépris, de haine et de dégoût à l'encontre des pauvres. Et on peut par exemple vous donner une citation de Virginie Woolf.
Virginia,
oui, si tu veux, Woolf. Je la lis. Elle est tout à fait édifiante. Sur les chemins de halage, nous avons rencontré une longue file d'imbéciles et avons dû passer devant elle. Nous avons alors réalisé que chacun des individus de cette file était une créature idiote, incapable et fuyante, sans front ni menton, avec un sourire imbécile ou un regard défiant et agressif. C'était parfaitement horrible. Il devrait certainement être tué.
Ouais, alors voilà. C'est fou de voir comment Virginia Woolf, qui est plutôt une icône du féminisme,
oui,
enfin, quelqu'un de fort honorablement connu, proférait en fait des abominations sur les pauvres jusqu'à dire donc qu'en fait ils devraient être tués. Alors il y a une autre citation parfaitement édifiante d'un monsieur qui s'appelle Arthur Young, qui est un intello de cette époque, totalement traumatisé par la Révolution française, et qui écrit « Tout le monde, sauf un idiot, sait que les classes inférieures doivent être maintenues dans la pauvreté. Sinon, elles ne seront jamais industrieuses. » Donc, toujours cet argument comme quoi ben, la faim est un aiguillon indispensable pour forcer les gens au travail.
Et comme pour le grand capital, il n'y a absolument pas de petits profits, eh bien, dans la mesure où les pauvres étaient pris en charge par les caisses d'assistance, je reviens sur l'histoire anglaise, eh bien, que faisaient les employeurs et les fermiers? Ils ont eu tendance à baisser les salaires et à reporter le reste à la charge de la charge sur les caisses. Ce qui est pas de petit profit.
Voilà. Mais ce qui est exactement, d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui.
Clairement.
Voilà. Alors, toutes ces théories, quand même tout à fait abominables, mais encore une fois, qui demeurent absolument valides dans l'esprit des gens qui nous gouvernent, se sont exprimées d'une manière extrêmement brutale au moment de la famine en Irlande. Alors, cette famine, en fait, a été due au fait que les Irlandais... qui étaient colonisés, avaient l'obligation d'exporter leurs ressources alimentaires en Angleterre. Donc ils n'avaient plus rien pour eux, si ce n'est des patates. Et quand les patates ont été détruites par le mildiou, les doryphores ou je ne sais plus quoi, ils n'avaient strictement plus rien à bouffer. Voilà. Alors, ce qu'écrivaient les intellectuels anglais à l'époque, dont un dénommé Charles Trevelyan, qu'on reverra d'ailleurs, je crois, plusieurs fois, j'ouvre les guillemets, le vrai mal auquel nous devons faire face n'est pas la famine, mais le caractère égoïste, pervers et instable de ce peuple. Donc encore une fois, si les Irlandais crevaient de faim, eh bien c'était parce qu'ils étaient des créatures vicieuses et immorales. Donc ce qui est vraiment extraordinaire.
Donc ce Charles Edward Trevelyan, qui est un haut fonctionnaire administrateur colonial britannique au 19e, et qui était au 19e siècle, donc, voyait dans la famine, je cite, le jugement de Dieu qui a infligé cette calamité afin de donner une leçon aux Irlandais. Et c'est pourquoi elle ne doit pas être trop atténuée. Le vrai mal auquel nous devons faire face n'est pas la famine, mais le caractère égoïste, pervers et instable de ce peuple.
Voilà. Et même Trevelyan allait encore plus loin. Il voyait dans la famine irlandaise une occasion formidable de traiter le problème de la surpopulation. Voilà, parce que encore une fois, tous ces gens vicieux, nuls, etc., faisant beaucoup d'enfants, il fallait véritablement supprimer un maximum de ces enfants. Donc encore une fois, on voit que la logique profonde de ces raisonnements n'est jamais de lutter contre ce qui cause la pauvreté, mais contre les pauvres. Voilà.
Mais en fait, qui sont eux-mêmes responsables de leur sort, disent-ils.
Évidemment
responsables. Et qui sont en plus des classes dangereuses, Révolution française, etc., etc. Et évidemment, on pense au bouquin de Louis Chevalier, qui a été publié en 1958 à Paris, pendant la première moitié du XXe siècle, « Classe laborieuse et classe dangereuse ». Donc, voilà. Et là, on arrive au chapitre 4.
Alors là, je ne sais plus très bien où on en est, qui est...
Autour de la Révolution française, et la Révolution française va ouvrir une multiplication d'études sur la condition ouvrière et la pauvreté. Les auteurs les plus connus, donc il n'y a évidemment pas que des auteurs qui sont des auteurs qui défendent le libéralisme, voilà. Certains oui, d'autres moins. Donc Eugène Buret, par exemple, qui est économiste libéral et sociologue français. On pense aussi à Louis Villermé, chirurgien des armées napoléoniennes, qui abandonne son métier pour se consacrer à l'étude des questions soulevées par les inégalités sociales. On pense à Engels, Frédéric Engels, qui prône la révolution sociale du prolétariat. On pense à Charles Boss, réformateur social britannique. Ces études vont donner lieu un affrontement entre les partisans et les adversaires du darwinisme social.
Alors là, je reviens un petit peu en arrière, mais toujours l'ineffable Trevelyan, qui disait la chose suivante, nous sommes 8 millions et le pays ne peut pas les faire vivre.
Ah,
on
oui.
pourrait avantageusement se passer d'un ou deux millions et le pays appartiendrait aux survivants. Voilà. Donc là, encore une fois, il y a véritablement... Sans aucun souci, un appel à la nécessité de l'extermination des surnuméraires, des pauvres, etc. Alors, encore une fois, il est possible que nous soyons aujourd'hui, encore une fois, dans ce même type de logique.
En admettant qu'on l'ait déjà quitté, ce type de logique. Parce que malheureusement, je crains que ce qui a été dit à grand bruit au 19e et au début du 20e siècle continue d'exister juste à bas bruit, en fait. C'est là le problème.
Et comment ne pas penser à la manière dont toutes ces théories ont abouti au nazisme, leur logique exterminatrice, biologique, aussi raciale, ont, encore une fois, abouti très, très logiquement au système nazi qui était absolument partisan de l'eugénisme, on le sait bien.
Oui.
On sait aussi que Churchill, qui était un affreux personnage, en dehors de son rôle héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, était quand même une ordure épouvantable, était un eugéniste convaincu, un suprémaciste blanc également convaincu, et prônait sans aucun souci la stérilisation des déficients mentaux, quoi, comme...
Absolument.
Comme ce
d'ailleurs,
se passer sur les gymnasies.
Oui, d'ailleurs, il y a un médecin qui s'appelle Alfred Treadgold, qui a écrit un article en 1911, qui dit, je cite, « Je n'hésite pas une seconde à affirmer, à partir de mon expérience personnelle, que de nos jours, la progéniture dégénérée des faibles d'esprit et des pauvres est traitée avec davantage de sollicitude. » Qu'est-ce que je lis ? Je crois que je me suis trompée quelque part. « Reçoit une alimentation, des vêtements et des soins médicaux de meilleure qualité que l'enfant d'un travailleur respectable et indépendant. » C'est tellement vrai que les gens commencent à réaliser que l'épargne, l'honnêteté et l'abnégation ne paient pas. En fait, c'est horrible.
Oui, et bien c'est exactement les raisonnements qui sont tenus aujourd'hui quand on entend des tas de gens dire, je sais pas moi, en particulier à propos des immigrés, oui, c'est tout pour eux, rien pour nous.
C'est ça.
Ils branlent rien et
c'est des fainéants.
Ils ont des logements, des trucs.
Ils viennent prendre notre pain et notre travail.
Ils viennent prendre notre pain alors que nous n'avons rien. Voilà. Alors, ensuite. C'est un peu compliqué hein, parce qu'on est en train de se.
Ben, en fait, se là, battre on, entre on avait réfléchi autour de Darwin, là.
Voilà.
Puisque Darwin, se dissimule et se cache toujours derrière les penseurs de son époque, mais en même temps, il n'en pensait pas moins, il n'a juste pas eu le courage de l'affirmer clairement, c'est-à-dire en fait la transposition de sa théorie à l'espèce humaine. Hein. Et il écrit une phrase qui jette le trouble, les membres faibles des sociétés, donc je cite Darwin là, les membres faibles des sociétés civilisées propagent leur nature et en conséquence nous devons donc subir, sans nous plaindre, les effets incontestablement mauvais qui résultent de la persistance et de la propagation des êtres débiles.
Voilà. Alors oui, Darwin, encore une fois, ce que nous explique Husson, était quand même plus ou moins un faux cul. Parce que il prétendait que ses théories ne s'appliquaient pas du tout à l'espèce humaine, mais enfin, il y a pas mal quand même de témoignages, de citations qui révèlent qu'en fait, si. Voilà, il le disait pas trop ouvertement, il laissait plutôt s'exprimer ses collègues, intello, scientifiques, économistes, mais il souscrivait quand même très très largement au darwinisme social.
Voilà. Et à l'eugénisme. Alors l'eugénisme c'est quoi en fait ? Il s'agit d'un ensemble des recherches biologiques et génétiques et des pratiques morales, sociales qui ont pour but de déterminer les conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains et par là même d'améliorer la race humaine. Alors, il y a pas mal d'auteurs qui ont abordé la question de l'eugénisme.
Dont Galton.
Oui.
Voilà, qui était d'ailleurs le neveu ou le cousin de Darwin.
Le cousin.
Qui était anthropologue. Je crois aussi statisticien, d'ailleurs. On voit beaucoup le rôle qu'ont joué les statistiques dans les conceptions racistes, eugénistes. Oui, c'était le cousin de Darwin, c'est ça. Alors, il y avait aussi un autre monsieur qui s'appelait Alfred Wallace, qui a aussi été l'auteur d'une théorie de l'évolution similaire à celle de Darwin. Voilà.
Et contemporaine.
Voilà. Alors,
ce Wallace-là est le père fondateur de la biogéographie. C'est-à-dire l'étude de la distribution géographique des êtres vivants et de son histoire. Et on arrive à Greg.
Voilà. Alors, on arrive à monsieur William Rathbone Greg, qui était un marchand et un homme politique anglais. Alors, donc, qui écrivait la chose suivante. Le principe de la sélection naturelle, selon lequel les races supérieures et les mieux dotées de l'espèce humaine piétinent, c'est-à-dire marchent dessus, quoi, et évincent les races les moins évoluées. Alors, Darwin lui-même affirmait qu'il existait une hiérarchie entre les races et qu'il déniait à certains sauvages l'humanité, qu'il aurait une vertu inconnue. Mais quand même, il s'exprime pas trop, Darwin. Hein, il a quand même tendance à se planquer
derrière Greg en particulier.
Donc, et pour Darwin aussi, ce qui est très important, c'est que le progrès social est un frein à la sélection naturelle. Alors, il écrit Darwin, « Nous sommes arrivés à un état de progrès social et culturel, en un mot, à un degré élevé de civilisation. Mais la conséquence indiscutable est de contrecarrer et de suspendre l'application de cette loi juste et salutaire de la sélection naturelle, grâce à laquelle ce sont les meilleurs spécimens de la race, les plus forts, les plus raffinés, les plus dignes, qui survivent, l'emportent, s'imposent, réussissent et triomphent dans la lutte pour l'existence. » Donc, oui.
Et c'est ce qui est extrêmement intéressant, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les hôpitaux, l'effondrement du système de santé, etc., ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme Darwin, Greg déplore les effets collatéraux des progrès de la médecine, mais dans des termes absolument terribles, il dit « Nous avons permis de vivre à ceux qui, dans un état plus naturel et moins avancé, seraient morts, et qu'il aurait mieux valu laisser mourir du seul point de vue de la perfection physique de la race. »
Voilà.
On est quand même dans des échos assez terrifiants autour du nazisme, hein, vraiment.
Mais effectivement, tout progrès de l'hygiène et de la médecine, voilà, s'oppose à la sélection naturelle et permet donc à des individus débiles, inférieurs, de survivre,
de se reproduire leur tare, évidemment.
Et de reproduire leur tare, ce qu'on va retrouver à fond dans l'idéologie nazie.
D'ailleurs, il va encore plus loin, Greg. Sur la question de la démocratie, non seulement les qualités physiques de l'espèce sont dégradées dans la reproduction des êtres débiles, ce qu'il appelle des êtres débiles, c'est quand même les ouvriers, c'est quand même les paysans, c'est quand même voilà. Alors donc, non seulement les qualités physiques de l'espèce sont dégradées, mais le bon fonctionnement même de la société est remis en cause par la démocratie, nous dit Greg. Car celle-ci implique, je cite, que les arrangements sociaux sont gérés et contrôlés par les classes les moins éduquées, les moins formées pour anticiper et mesurer les conséquences, les plus ignorantes des lois terriblement contraignantes de la transmission héréditaire.
Voilà, alors, assez logiquement, Greg esquisse les contours d'une société qui se donnerait les moyens de renouer avec la sélection naturelle. Il dit, on pourrait imaginer une république qui interdirait aux indigents d'enfanter. Tous les candidats au fier et solennel privilège de reproduire une race pure et perfectionnée devraient être soumis à un examen comparatif. Seuls auraient le droit de procréer les individus capables de transmettre une constitution pure, vigoureuse et bien développée aux générations futures. La paternité serait ainsi un droit réservé à l'élite de la nation, de telle sorte que l'humanité pourrait avancer en toute sécurité sur une voie débarrassée de tout obstacle à ses possibilités ultimes de progrès. Les traits dégradés ou inférieurs pourraient être éliminés, tandis que les caractéristiques supérieures seraient sélectionnées et confirmées jusqu'à ce que la race humaine devienne une glorieuse congrégation de saints, de sages et d'athlètes. C'est voilà,
extraordinaire.
C'est absolument extraordinaire. Et encore une fois, c'était les prémices absolues de l'idéologie nazie.
Et il conclut d'ailleurs, « Le destin de l'humanité dépend de l'issue de la course engagée entre l'évolution morale et mentale et la détérioration de la constitution physique qui découle de la défaite de la loi de la sélection naturelle. »
Et donc, oui, pour reprendre cette histoire d'eugénisme qui était très fortement imposée déjà et mise en place aux États-Unis dans les années 1900-1910 et qui s'est poursuivie jusqu'à peu près dans les années 60 dans certains États des États-Unis où d'autres personnes ont obtenu gain de cause auprès des tribunaux pour, disons, des traitements inhumains. On peut rappeler aussi que cet eugénisme a inspiré les nazis et Adolf Hitler pour mettre en place... pour mettre en place le programme T4, Tiergarten 4, avec, disons, déjà, là, par contre, ce n'était plus la stérilisation, c'était carrément la mise à mort d'asociaux et de personnes, disons, psychiatrisées. Et donc, fait par des médecins.
Voilà. Merci, Frédéric.
Merci, Frédéric.
D'ailleurs, Darwin avait avalisé les propos de Greg sur le fameux Irlandais malpropre et l'Écossais frugal, ou bien sur les effets désastreux des progrès médicaux. On a donné une citation déjà sur ce sujet. Darwin, nous dit Michel Husson, livre ses arrière-pensées sociales, ou plutôt antisociales. Il regrette que l'action syndicale mettent à mal le processus de concurrence, ce qui est, je cite, un grand mal pour le progrès futur de l'humanité. Voilà. Pour Michel Husson, cela, je cite, montre comment la science darwinienne est profondément articulée à des préjugés de classe et à des positions réactionnaires. Donc, Francis Galton nous parle de, je le rappelle, c'est le cousin de Darwin, il nous parle de la question de l'hérédité, purification et ségrégation sociale. Galton est un scientifique connu pour ses travaux statistiques qu'il applique au processus humain en soulignant l'importance des facteurs héréditaires dans la détermination des différences sociales. À ses yeux, tous les efforts pour protéger les, je cite, « moins dotés » sont donc pernicieux parce qu'ils faussent le processus de sélection naturelle. Le projet eugéniste est né. Toute l'action de Galton est en fait sous-tendue par un programme de purification et de ségrégation sociale, écrit Michel Husson, qui renvoie Frédéric à ce que tu viens de nous dire, évidemment. Et là encore, évidemment, Darwin se cache derrière Galton. Je cite Darwin. J'ai tendance à être de l'avis de Francis Galton. Voyons. À savoir que l'éducation et le milieu n'ont qu'un faible effet sur le caractère et que nos qualités sont pour la plupart innées. Donc, la dimension sociale, le milieu dans lequel on évolue, les conditions de vie, etc., tout ça ne compte pas. Tout ça, en fait, c'est des questions innées. On est bien né ou on est mal né, et si on est mal né, eh bien évidemment on peut être pénalisé pour ça, l'eugénisme, voilà, la suppression des aides, etc., etc. Et là on passe à Spencer.
Oui, qui, alors à Spencer, qu'on a déjà vu, hein, l'un des charmants personnage qu'on a déjà vu et qui avait donc à l'égard des pauvres, des chômeurs, un mépris absolument terrible et qui disait, je cite, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas manger. » Voilà. Et simplement l'énoncé chrétien de cette loi de la nature sous l'empire de laquelle la vie a atteint son degré actuel. La loi d'après laquelle une créature qui n'est pas assez énergique pour se suffire doit périr. Voilà. Il écrit également à propos des chômeurs. Ils n'ont pas d'ouvrage, dites-vous. Dites plutôt qu'ou bien ils refusent l'ouvrage, ou ils se font mettre rapidement à la porte des ateliers. Ce sont simplement des vauriens qui, d'une manière ou d'une autre, vivent aux dépens des hommes qui valent quelque chose. Des vagabonds et des sots, des criminels ou des individus en voie de le devenir, des jeunes gens qui sont à la charge de parents peinant durement, des maris qui s'approprient l'argent gagné par leurs femmes, des individus qui partagent les gains des prostituées.
Et il fait des recommandations. Il fait des recommandations. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas manger. est simplement l'énoncé chrétien de cette loi de la nature sous l'emprise de laquelle la vie a atteint son degré actuel. La loi d'après laquelle une créature qui n'est pas assez énergique pour se suffire doit périr. La seule différence étant que la loi qui, dans un cas, doit être imposée par l'ordre, est, dans l'autre cas, une nécessité naturelle.
Alors tout ça est vraiment tout à fait abominable. C'est vraiment pour ça, je le rappelle, que quand nous avons lu ce livre, Thérèse et moi-même, on était vraiment très très impressionnés par ce bouquin, par la... l'absolue inhumanité, puis la franchise.
Ils sont décomplexés totalement.
La décomplexion totale avec laquelle s'exprimaient les idées les plus atroces, aboutissant encore une fois à l'extermination des surnuméraires. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que cette problématique est la même qu'aujourd'hui. Alors, elle n'est pas exprimée comme ça, bien entendu, ça ne passerait pas. Mais il y a quand même des tas d'indices qui laissent à penser qu'on n'en est pas vraiment loin.
Mon sentiment, c'est que on pouvait écrire tout ça, 19e, début 20e siècle, et on vous a montré à quel point, parmi les plus grands noms, les plus grands intellectuels, les plus grands philosophes, etc., pouvaient le faire de façon tout à fait décomplexée, tout à fait sereine et tranquille. Aujourd'hui, je crois qu'on n'est plus au stade du discours, en fait, mais on est au stade de la pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les acquis sociaux, l'État-providence mis en place pour, comme ça a pu être fait en Angleterre à un moment donné, pour pouvoir soutenir les pauvres dans un monde qui est en pleine mutation, où il y a le travail a totalement changé, évolué, etc., où la machine remplace beaucoup les humains, etc. Donc... où les humains sont obligés d'ailleurs de se spécialiser de plus en plus, des ingénieurs, des techniciens, etc., pour faire face à la demande du système néo-capitaliste. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus besoin des pauvres, finalement, ou en tout cas d'une grande partie des pauvres. C'était des forces de travail, tout le système industriel avait besoin de cette force de travail, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une autre façon d'avancer extrêmement décomplexée, contemporaine, qui consiste en fait à fermer le robinet, tout simplement. Et donc, toutes les lois et les mesures qui sont en train d'être prises depuis, grosso modo, je pense que c'est depuis les années 2000, en fait, ont pour objectif de reprendre ce qui avait été concédé, ce qui avait été arraché, par les luttes sociales, de le reprendre, parce qu'en fait, on n'a plus besoin de le donner, on n'a plus d'efforts à faire.
Oui, absolument. Alors, je souligne que comme le bouquin est vraiment très très riche, on a décidé de lui consacrer la prochaine émission aussi. Donc on va reprendre la discussion sur le livre le mois prochain.
Oui.
On retrouvera donc Michel Husson avec le portrait du pauvre en habit de vaurien. Bon, c'est totalement déprimant, mais c'est tout à fait passionnant.
Oui. On vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est un choc. C'est un choc philosophique, c'est un choc éthique, c'est un choc humaniste, ou plutôt de déshumanisation en fait. On a vraiment voulu partager ça avec vous et on vous invite à le lire. Et on va vous proposer une deuxième partie.
Voilà, donc on se retrouve le mois prochain, toujours avec Michel Husson. Voilà, alors merci Frédéric.
Oui,
Thérèse.
Et merci à vous.
Merci moi-même et on se retrouve dans un mois. Au revoir.
Au revoir.
he could not keep all his kings supplied with sleep. We'll climb that hill no matter how steep, but we still ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day my man's gonna come. Oh, we gonna fly down in the easy chair. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day my man's gonna come. Oh, we gonna fly down in the easy chair.
Tu sors souvent la mer, c'est pas bon pour ta voix. Tu devrais mettre un poule, t'as bien assez de moutons. Et puis prends ton carrosse et puis rentrer chez toi. 300 000 chevaux là-bas disent ton nom. Tu sors souvent la mer, fais gaffe aux inconnus avec leurs pipes en l'air qui canardent le ciel et leurs sarraux de fer. Et leur toile perdue, le vent n'a rien à faire avec ces criminels. Ça s'appelle bateau et ça marche au mazout. Dès le petit matin, ça s'en met plein le trou. Ça sait pas marcher droit, ça flirte avec radar. Un espion, un poulet, un voyeur, un bavard. Tu sors souvent la mer, à ton âge il faut pas. Tu mets ta vague à l'air comme les filles dans les bois. Et ça donne des idées à ceux qui n'en ont pas. Ça se met une casquette et ça se fout dans tes bras. Tu sors souvent la mer comme les filles de la rue qui monte sans raison avec un inconnu, parce que c'est l'usage et qu'elles ont 16 ans et qu'on peut faire naufrage sans avoir toutes ses dents. Ça s'appelle l'amour et ça marche au chiquet. Dès la tombée du jour, ça boucle ses paquets. Un voyage au long cours dans la rue Réaumur, c'est 5 à 6 minutes. Et encore sûr. Tu sors mer, tu te fais les yeux bleus, t'y mets du vert parfois pour voir tes amoureux qui regardent le creux que te fait la marée, qui des fois s'y confondent en croyant se marrer. Tu sors souvent à la mer, mais tu n'as pas d'époux. Dans ta maison de dune, tu nous lèches la joue. Et tu repars là-bas comme un rêve insensé qui toujours recommence et toujours se défait. Ça s'appelle la vie, ça marche au baratin, ça se met des chapeaux, des bijoux, des chagrins, ça sort au syndicat, au ciné, crois-moi, ça sort et puis ça rentre faire des mômes. Allez. Tu sors souvent la mer, emmène-moi avec toi.